Ce matin, je vais aborder un sujet qui est délicat. C'est pas toujours facile pour un pasteur d'apporter une prédication lorsqu'on parle d'argent. Mais l'argent fait partie de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et ce matin, je vais commencer par des questions qui, juste pour nous mettre un peu dans le contexte, hein, nous mettre un peu dans l'ambiance. Lorsque tu considères tes finances, lorsque tu penses à tes finances, ton argent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ce que tu possèdes ou ce que tu ne possèdes pas? C'est quoi tes dettes? C'est quoi que tu veux acheter? Te sens-tu stressé? Ou bien es-tu en paix? La parole de Dieu offre beaucoup de sagesse en ce qui concerne nos décisions financières. Et dans ce message, ce matin, je veux couvrir les préoccupations courantes. Qu'est-ce qui nous occupe? Qu'est-ce qui nous préoccupe, je dirais bien, dans la vie? En discutant de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit, en parlant aussi des promesses concernant les finances personnelles, et ce à quoi nous pouvons nous attendre si nous sommes obéissants à ces principes. Donc, nous allons découvrir ensemble ce matin le chemin de la générosité, le chemin de la disposition, est-ce que mon cœur est disposé à donner, en apprenant à lui faire confiance, à faire confiance en Dieu avec nos argents, avec cet important domaine de nos vies, les finances. Et vous avez tous reçu un petit pamphlet pour prendre les notes ou pour lire les notes. Vous avez le passage que notre frère Sylvain a lu ce matin, passage clé, qui est dans Proverbes 3, versets 5 à 10, et Luc 6, 38. Et on a ce qu'on appelle les écritures de soutien, c'est-à-dire les passages bibliques qui sont là pour nous placer en confiance dans ce que la parole de Dieu dit au sujet des finances. Encore une fois, lorsque tu considères tes finances, est-ce que ça vient te chercher émotionnellement? Ça te cause-tu du stress? Il y a du monde qui sont stressés à cause de leurs finances. Ou pas donc? T'es-tu en paix? T'es-tu en paix? C'est quoi les pensées qui te viennent à l'esprit? Est-ce que tu te concentres sur ce que tu n'as pas? Sur combien tu aimerais avoir? Souvent, on est chialeux un peu, là. J'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça avoir ça. Je sais, j'ai mes faiblesses, moi aussi. Quand je parle de livres, là, j'aimerais ça l'avoir, cette série-là. Mais, je veux dire, il faut faire attention. Mais, je suis content. Faut que je sois content de ce que Dieu me donne. C'est ça qui fait ma journée. Est-ce que tu penses à ce qui pourrait augmenter ton revenu? Qu'est-ce que tu ferais avec plus d'argent? Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se permettre des choses. Non, ce n'est pas ça pantoute. Toutes ces choses-là, ce sont des préoccupations qu'on appellerait communes pour nous tous. On ne peut pas s'en sortir. Ça nous préoccupe, l'argent. Mais il y a un autre aspect qu'il faut considérer. Et cet aspect-là, c'est l'aspect spirituel qu'on devrait considérer lorsqu'on pense à nos finances. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur ce sujet-là? Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Ça, souvent, on l'oublie. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Facile de dire, « Oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Non! ne faut pas penser comme ça. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et quand il s'agit de nos finances personnelles, il est important de comprendre qu'on doit suivre les principes de Dieu qui nous sont enseignés dans la Bible et non pas des conseils ou des raisonnements humains. Souvent, ça peut nous mettre plus dans le trouble que d'autres choses. On doit savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. On doit connaître les promesses en ce qui concerne nos décisions financières. C'est bon de savoir, hein, quand ça va mal, que Dieu est là pour nous soutenir, que Dieu est là pour nous bénir, mais il faut qu'on soit des enfants obéissants, obéissants à sa parole. Et on doit être capable de nous attendre à ces choses-là si on obéit aux principes de la parole de Dieu. Le Proverbe 3, 5 et 10, que Sylvain a lu tantôt, nous donne des conseils divins qui s'appliquent vraiment aux questions financières. Si vous regardez les deux derniers versets, on va aller dans Proverbe 3, verset 5, 6. Regardez 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Wow! C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si j'honore Dieu avec mes gains, bien Dieu va prendre soin de moi. Ça signifie qu'on doit honorer Dieu de nos richesses en lui donnant la première partie de ce que nous recevons. Quand on construit ou quand on fait un budget, la première ligne, ça doit être dans nos dépenses, ça devrait être nos offrandes. On ne donne pas le restant. Ce qui nous reste, on donne en premier ce que Dieu nous a donné. Et si nous suivons ce conseil-là, frères et sœurs, le Seigneur promet de pourvoir à nos besoins. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur les finances? Dieu possède tout. À matin, si tu penses que ta maison t'appartient, ton char t'appartient, ton compte de banque t'appartient, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, parce que Dieu possède tout. Au verset 12 du psaume 50, on peut lire, « Si j'avais faim, Dieu dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Dieu dit, « Je n'ai pas besoin de te le dire. » Pourquoi? Parce que le monde m'appartient. C'est une vérité, vous savez, qui est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que, comme être humain, hey, moi, j'ai travaillé pour gagner cet argent-là, donc c'est à moi. C'est vrai? Hey, c'est mon argent, ça. Par contre, on n'est pas des propriétaires. On n'est pas propriétaire de quoi que ce soit, mais on est les gardiens, on est les administrateurs de ce que Dieu nous a confié. C'est ça qu'on est. Dieu t'a donné d'avoir tant, de te permettre tant, tu dois administrer cet argent-là du mieux que tu peux, selon ce que la parole dit. Tu ne fais pas comme celui qui a enterré le denier que son maître lui avait donné, ou la pièce d'or, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne m'en rappelle plus, j'ai un blanc. Penser que tu l'as protégé, non. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des capacités financières, tu dois les utiliser à bon escient. Dieu seul est la source. Dieu seul est le pourvoyeur de notre argent et de tout ce qu'on possède. Pour illustrer ce qui se passe quand nous oublions cette vérité-là, on va aller dans Luc 12, versets 16 à 21, si vous voulez tourner. Le Seigneur Jésus nous raconte ici une parabole sur un homme qui était riche. Et sa terre était tellement productive hein, qu'il fallait qu'il construise d'autres granges, puis grossir, là, autrement dit, devenir plus grand, pour être capable de tout mettre ce foin-là ou quoi que ce soit. Mais regardez bien au verset 19, qu'est-ce que cet homme-là se dit en lui-même? Il dit, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est bien ça que bien les gens font. « We got it made! » Je peux me permettre ça en Ontario, là. Mais le Seigneur, il dit au verset 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Tu t'amasses toutes sortes de trésors, tu grandis, tu grossis, au lieu peut-être de donner à Dieu ou donner dans des communautés ou quoi que ce soit. Puis là, le Seigneur lui dit, « Pourquoi tu fais ça? Tu vas mourir à soir. » Et Jésus conclut cette histoire-là en disant, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. » Il n'y a rien de mal à vouloir évoluer dans son commerce ou quoi que ce soit. Mais si tu ne penses pas à Dieu là-dedans, tu as un problème. On n'est qu'à un battement de cœur de perdre tous nos biens terrestres. Alors, on va se présenter devant Dieu pour entendre son évaluation de notre vie. Frères et sœurs, le temps de vivre sagement, selon les instructions de Dieu, c'est maintenant. C'est pas quand toi t'as décidé, c'est maintenant. Dieu t'appelle maintenant à vivre avec sagesse. Dieu aussi, dans un autre point, veut qu'on donne. C'est un privilège de donner. Hein, on donne des cadeaux à nos enfants, on donne des cadeaux à des gens qu'on aime. On aime ça donner, on devrait aimer ça donner. Dans Malachie 3, versets 8 à 12, ce passage-là nous montre la perspective de Dieu sur la dîme. Maintenant, le mot dîme, ça choque des fois les gens. Et puis, je veux juste ouvrir une petite parenthèse ici sur la dîme. Parce qu'il y a des écoles de pensée qui disent qu'on devrait donner 10 % de notre revenu. On ne sait pas si ça devrait être net ou ben non sur le brut. Moi, je ne suis pas en train de dire aucun chiffre ici. Que ce soit 10, que ce soit 5, que ce soit 15, parce qu'il y en a qui sont peut-être capables de donner 15 % de leurs revenus, le principe de l'offrande, c'est qu'il faut que ce soit un sacrifice. Si, je me rappelle dans le temps que, il dit, moi, je te fais péter un 30 sous dans le bol, là, comme si c'était, tu sais, le monde peut-être donnait 10 cents dans ce temps-là. Si le montant d'argent que tu donnes, là, ça ne te chatouille pas, là, ça te fait pas mal, là, c'est pas une offrande. C'est un superflu. Une offrande, ça chatouille. Ça fait mal. C'est un sacrifice. Rappelez-vous de Caïn et d'Abel. Abel offrait ce qu'il y avait de meilleur. Le premier-né de son troupeau, il fallait qu'il le sacrifie sur l'autel pour Dieu, tandis que Caïn donnait le restant de ses légumes, les légumes qui étaient plus frais, qui étaient pourris. Ça, c'était ça que Caïn donnait à Dieu. C'est ça que tu donnes au Seigneur, le restant, le superflu, ce que tu ne mangeras pas. Il faut y penser. Dans ce texte-là, le Seigneur se compare, c'est-à-dire ce que le peuple retenait pour lui à la dîme et aux offrandes. Et gardez bien ce qu'il dit au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Autrement dit, testez-moi, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Testez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Même si ça a été dit à la nation d'Israël, les raisons de la générosité s'appliquent encore de nos jours. Pourquoi? Pour assurer l'œuvre du Seigneur, premièrement. Deuxièmement, pour répondre aux besoins des autres. C'est important. Et troisièmement, pour nous prouver que Dieu est fidèle. Tu ne crois pas que Dieu est fidèle? Fais un test. Mets ton argent à l'épreuve. Puis tu vas voir que Dieu va bénir. Dieu aussi veut qu'on donne joyeusement. 1 Corinthiens, Paul, 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Il faut que ce soit une résolution qui parte du cœur, sans tristesse, ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, notre attitude de cœur est très importante pour le Seigneur. David avait un cœur, il avait un cœur selon le cœur de Dieu, même si David a fait des choses pas trop correctes, même je dirais effrayantes, bien, il avait un cœur. Et le Seigneur veut qu'on donne volontairement, joyeusement, par amour, et avec gratitude, parce qu'on a reçu beaucoup. On a pris le repas du Seigneur tantôt, on a reçu beaucoup. On a reçu la vie éternelle. Imaginez-vous, là. Maintenant, Dieu nous met en garde contre le fait de désobéir dans nos offrandes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on désobéit? Le fait qu'on est commandé par le Seigneur à lui donner une partie de ce qu'il nous a confié, bien, il y a des conséquences, veut pas, si nous choisissons de lui désobéir. Il y a un passage dans Agé, chapitre 1, verset 6. Et le Seigneur ici va réprimander le peuple de Juda pour leur désobéissance en disant ceci, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyons, c'est quoi qu'il veut dire le Seigneur par ça? Et je suis allé voir dans une autre version, la version Darby, qui dit ceci, « Et celui qui travaille pour des gages, celui qui travaille juste pour de l'argent, pour toujours en avoir plus, pour lui, il travaille pour les mettre dans une bourse trouée. » Alors, si vous mettez votre argent dans une bourse trouée, vous allez vous apercevoir à un moment donné que vous n'avez plus. Si tu travailles seulement pour gagner de l'argent et tu oublies de donner, tu désobéis au Seigneur. Donner à Dieu n'est pas seulement une manifestation d'appréciation, mais c'est ou de réflexion ou de générosité, mais c'est un acte d'obéissance. Et c'est ça qui doit venir nous chercher ce matin. Je veux obéir au Seigneur. donner à Dieu, c'est parce qu'il nous a tellement donné qu'on apprécie, mais aussi on veut lui obéir. Et si on néglige tout ce que nous gagnons ou tout ce que nous acquérons, jamais, jamais on va être satisfait. Jamais. Si on garde tout pour soi-même, on ne sera jamais satisfait parce que la satisfaction ne vient qu'avec l'obéissance. Maintenant, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nos offrandes. Premièrement, sa motivation. Qu'est-ce qui motive Dieu à nous bénir dans nos finances? Mais la réponse, on l'a dans 1 Chronique 29, 12. Mais avant, on va aller dans 1 Chronique 22, 5. On ne l'a pas au tableau. Parce que j'aimerais qu'on puisse connaître le contexte avant de ce que je vais lire dans 1 Chronique 29, 12. Donc, 1 Chronique, c'est-à-dire 22, 5. Et là, le contexte, c'est que David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Dieu nous aime. David aimait son fils. Il veut qu'on puisse comprendre qu'il est celui qui nous permet de prospérer financièrement. David a permis que Salomon ait un bon départ. Et là, on revient au verset 12 de 1 Chronique 29, c'est-à-dire, « Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. » David a donné ça, il l'a donné au Seigneur, c'était pour le temple. Et là, Salomon a été béni pour construire, parce que David n'a pas eu le droit de construire le temple, mais pour construire ce temple-là. Donc, Dieu est motivé parce qu'il nous aime. Ensuite de ça, on a ses promesses. Regardez bien dans Proverbes 3, verset 10, qu'on a lu tantôt. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le Seigneur bénit ceux et celles qui lui font confiance assez pour leur donner ce qu'ils désirent selon sa volonté. » Ensuite de cela, une autre motivation, c'est Dieu nous protège. Et dans Malachie 3, verset 11, le Seigneur dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Wow. Vous savez, lorsque on suit les directives de Dieu, concernant nos finances toujours, on n'a pas à craindre la privation. Parce qu'il nous conduit à prendre des bonnes décisions, des décisions financières qui sont sages et qui sont selon sa volonté. Dieu veut protéger ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu lui obéis. Ensuite, on peut parler de la générosité. Sa générosité. Et dans Luc 6, 38, comme on a lu tantôt, le Seigneur dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Vous savez, quand je vais chez des patates frites, excusez, j'en mange plus gros, là, mais vous savez, le gars là, qui brasse son sac pour que les patates se tassent, là, puis qui en met pour que ça déborde, là, lui, il donne ça. Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Celui qui fait juste en mettre dedans, puis que... Ben, il y a des trous, il y a des trous d'air. Le Seigneur nous donne plus que ce que nous nous attendons, au bonheur de ce qu'on peut mériter. Et ensuite de cela, il y a sa suffisance. Dans 2 Corinthiens 9, 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le Seigneur nous donne pour combler tous nos besoins, puis il en reste pour d'autres, pour de bonnes œuvres. Vous savez, notre volonté de vouloir suivre les principes financiers de Dieu, c'est une question d'avoir confiance dans sa parole. Sinon, la Bible a été écrite pour quoi? Surtout pour nous, les chrétiens, hein? Oh là là, on est content, on vient avec notre Bible, on lit la Bible, on fait des études bibliques. Mais si tu ne crois pas ce qui est écrit dedans, là, c'est quoi que ça donne? Absolument rien. Donc, je veux avoir confiance en Dieu. Je veux comprendre que Dieu m'a donné des promesses, Dieu va me protéger, Dieu est généreux. Dieu me donne avec suffisance. Et si on est confiant qu'il fera ce qu'il a dit dans sa parole, bien là, on va être généreux. Sachant qu'il sera fidèle pour remplir nos besoins quand nous lui donnons une partie de tout ce qu'il nous a donné. Je vais terminer avec, comme je fais toutes les semaines, vous donner un petit lunch pour la semaine. C'est dans votre pamphlet. Mais ce matin, cette semaine, j'aimerais ça qu'on puisse méditer sur ces quelques questions. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire confiance à Dieu avec tes finances? Puis, sois honnête. Ça se peut que tu sois dans une situation précaire, difficile, puis que là, tu dis, je retiens mon offrande parce que j'ai peur d'en manquer. Mets Dieu à l'épreuve. Donne avec générosité, mais donne joyeusement, sans contrainte. Sans contrainte, mets Dieu à l'épreuve. Si tu as peur, c'est de quoi que tu as peur? Qu'est-ce que tu penses qui va se produire si tu commences à donner une partie de tes revenus à Dieu? Fais l'essai. Et maintenant, selon ce qu'on a appris ce matin, quels sont les attributs de Dieu qui te rassure, qui t'amène à lui faire confiance pour répondre à tous tes besoins selon sa volonté, si tu lui obéis en matière d'offrande. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces encouragements ce matin concernant nos finances, notre argent. Notre argent qui n'est pas notre argent. Merci de pourvoir à chacun de nos besoins. Merci de pourvoir à ton Église. Et Père, qu'on puisse s'examiner encore une fois. Être capable d'aller honnêtement devant toi, comme si on se regarderait dans un miroir, puis de se dire la vérité. Et Père, je sais que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est tellement bon que si on a manqué dans nos offrandes, dans tout ce que tu nous as donné, si on a manqué à redonner, bien, Seigneur, pardonne-nous. Puis aussi, Seigneur, qu'on puisse repartir à zéro avec un cœur bien disposé, un cœur joyeux, un cœur selon ta volonté, selon toi. Et c'est par Jésus qu'on te prie. Amen.